L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Rodolphe Roux à la maison. Et Rodolphe, c'est le CDO de Wico, que vous connaissez peut-être pas, mais que vous allez connaître dans pas longtemps. Rodolphe, je l'ai connu, sans blague, via ta femme, si je me trompe pas, via Clotilde.
Je suis le Colombo du web, moi, je parle tout le temps de ma femme aussi.
C'est ça. Et il y a plusieurs choses qui me semblaient intéressantes dans la discussion. Est-ce que tu peux parler d'abord de l'usage du mobile en France, du smartphone en particulier, parce que ça me semble intéressant.
Exactement. Alors en fait, déjà, il y a des indicateurs qui ne trompent pas. Souvent, on rencontre énormément d'acteurs, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C, qui considèrent et qui pensent que tout le monde utilise des smartphones de manière un peu qualitative, comme nous on peut le faire. En fait, ce n'est pas du tout la réalité. Juste quelques grands indicateurs. 72 millions de cartes SIM en France.
66 millions d'habitants.
Oui, bon, alors ça, il y a plus de cartes SIM que d'habitants, ça c'est vrai. Mais ce qui est plus étonnant, c'est 33-35 millions de mobinautes. Ça veut dire qu'il y a quasiment 40 millions de cartes SIM. Alors, ça ne fait pas 40 millions de personnes, tu as bien fait le calcul, mais ça fait au moins 25 millions de personnes qui ont une carte SIM et qui ne vont jamais sur Internet. D'accord. Sur ces 33-35 millions de mobinautes, il y en a 20 millions qui ont 4, 5, 6, allez, parfois 7 applications dans leur mobile, et ils n'en auront jamais plus, parce qu'ils considèrent que télécharger une application additionnelle sur leur mobile, ça altère la performance de leur mobile. Il en reste 12-13, et sur ces 12-13 millions, il y a la moitié de mineurs. Donc souvent, moi, je rencontre des acteurs et des entreprises qui partent de 72 millions, ils se disent « mais moi, mon marché, je vais développer des applications, des nouveaux services sur ces 72 millions de cartes SIM existantes », sauf qu'ils oublient qu'en fait, la réalité de leur marché, elle est à 6 millions, 7 millions de personnes majeures qui sont susceptibles de télécharger leurs services. C'est quand même pas la même chose. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Donc on voit des catastrophes industrielles, parce que nous, on vend des mobiles, mais on interagit énormément avec des marques qui veulent soit rentrer en natif dans nos mobiles, parce qu'on a 3 millions de clients en France et qu'aujourd'hui, on est devenu un peu incontournable. Deuxième vendeur, Cocorico, hein, Cocorico
deuxième
d'ailleurs.
Vendeur en France,
ouais. Deuxième vendeur en France depuis l'année dernière.
Donc c'est le portable que les gens achètent pour leurs grands-parents ou pour
non, leurs c'est, parents. C'est le téléphone qu'on achète parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix, parce d'accord. que c'est celui qui est chez Auchan, Carrefour, Leclerc, Darty, Fnac, et que j'ai envie aujourd'hui d'acheter mon téléphone sans abonnement parce que quand je vais chez certains grands opérateurs, en effet, je me dis que payer 50 euros ou 60 euros par mois, ou 60, bon, peut-être pas 50, plus de 50, mais c'est trop cher dans mon écosystème. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un Français sur deux hein, qui achète sur ce qu'on appelle l'open market, c'est-à-dire le marché des téléphones sans abonnement. Donc, en effet, Wico s'est imposé parce que c'est une marque de proximité, parce que c'est une marque qui a créé un état d'esprit et des produits qui correspondent parfaitement aux usages mobiles d'une grande partie de la population française. Et c'est comme ça qu'on s'est imposé en un minimum de temps, puisque c'est une entreprise qui n'a que 6 ans d'existence.
D'accord. Et alors du coup, ce que tu m'expliquais, c'est que pour toi, il y a des usages mobiles spécifiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour les marques en tout cas, qui plutôt que de développer des applis.
Ce qu'on constate en tout cas, c'est que les trois principales questions qui sont un peu révélatrices hein, de notre FAQ et de notre service client, c'est premièrement comment j'allume un smartphone. Donc ça fait rire quand je raconte ça, mais tout le monde se dit.
Ah, moi je pense à ma mère. Et
voilà. Ça donc tu penses à ta mère, mais moi j'ai donné un smartphone à mon père, il tapait dessus sur l'écran, il comprenait pas en effet que pour appuyer alors sur Android, en effet, faut appuyer sur le petit bouton à droite. La deuxième question, c'est comment j'envoie un SMS. Ouais. Et la troisième question, c'est comment je connecte mon smartphone à mon automobile. Donc ce que ça signifie, c'est que, en effet, pour pouvoir accompagner tous ces profils de Français, d'internautes, de gens dans le monde entier qui sont vraiment dans l'initiative et commencent en effet à utiliser leur smartphone, il faut les accompagner. Donc nous, chez Wiko, on a non seulement en effet créé des téléphones, ce qu'on veut en tout cas, des très bons rapports qualité-prix qui vont des smartphones de 59 à 399 euros bientôt, ah ouais. Parce qu'on sort un nouveau modèle à 399. Ouais, c'est celui
c'est
à 399.
Moins,
c'est,
oui,
moins ça dépend, c'est moins cher que l'iPhone. Et puis ça dépend du rapport qualité-prix. Donc, puis tu t'en auras un dans les mains, tu pourras le tester. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé imaginer avec des grands annonceurs et des grands partenaires des verticales d'usage pour développer le banking, le transfert d'argent. On a notamment signé un partenariat avec Western Union qui va bientôt voir le jour. On a commencé à aller voir des acteurs du monde de la maison, l'automobile, pour ne citer qu'eux. Et on est allé discuter avec eux pour créer un modèle uniquement dédié à l'automobile. D'accord. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Bah, en effet, j'ai mon téléphone, mais j'ai pas forcément envie de mettre toutes les applis autour de l'automobile. Bah, je vais avoir un téléphone qui sera dans ma voiture tout le temps, avec mon assurance intégrée, avec pourquoi pas ma marque pour la réparation, mon service client, ma station essence, voilà, mon opérateur d'autoroute. Et tout ça, ça sera intégré dans mon mobile. Et puis j'aurai quelques petites features et usages additionnels. Quand mon fils ou ma fille me demandera mon portable, ben je pourrais leur donner le téléphone de l'automobile. J'aurais pas besoin de lui donner mon téléphone parce que ça me gêne.
Mais ça, c'est un téléphone ou c'est carrément un truc genre intégré dans la voiture finalement ?
Ah bah c'est un téléphone parce que c'est un device. Hein. Donc ça se matérialise par un device. C'est dans cette logique d'accompagner les gens dans leur utilisation au quotidien. Et puis c'est en effet un téléphone avec plein de services dedans et plein d'avantages spécifiques.
Mais toi qui as écouté Patrick Hofstetter, donc qui était chez Renault avant, il disait bah finalement la voiture c'est le dernier espace publicitaire que les marques n'ont pas vraiment pris. Il disait bah finalement Google le fait via son appli. Mmh. Mais tu peux imaginer comme dans une Tesla un grand écran demain dans plus de voitures que oui. Tesla. Et dans ce cas-là, le téléphone il sera complètement, en fait, il sera connecté avec ton téléphone et du coup tu auras tout ça mais dans ta voiture.
Alors ce téléphone en effet qu'on va imaginer, il peut tout à fait être connecté à l'automobile, ouais. Et d'ailleurs reprendre les applications qui sont déjà préchargées ou téléchargées par les grands fabricants de voitures. D'accord. Et d'ailleurs dans cette verticale automobile, on discute avec des gens comme Renault, Peugeot, Nissan, Infiniti, etc., qui ont déjà, en effet, intégré dans leurs infrastructures technologiques des briques qui permettent, en effet, cet usage de mobilité. La réalité, par contre, dans l'usage même, c'est-à-dire que ça, c'est le projet à terme, mais bien dans sûr. L'usage aujourd'hui, au quotidien, tu sais bien que tu utilises très très peu ton GPS, on l'utilise plus, on utilise Waze.
Oui, bien sûr.
Donc ça, il n'est pas intégré encore dans le mobile ou il n'est pas encore utilisé par les voitures, entre guillemets. J'étais avec le patron de Waze il n'y a pas si longtemps que ça, qui disait c'est incroyable, on essaye de développer des partenariats avec le monde de l'automobile et en fait on se rend compte que dans les usages, le consommateur et le client, ils continuent à utiliser Waze sur son mobile. Donc en effet, il y a la perspective qui est de demain, en effet, d'avoir sur cette verticale de l'automobile une voiture avec plein de services dedans. Et puis, il y a en effet l'usage. Et nous, chez Wiko, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être proche de l'usage. Ça ne veut pas dire que dans 2, 3 ans, 5 ans, 6 ans, tout le monde vivra comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il faut être simple. Il faut être proche des gens et il faut être capable de créer des verticales de services que les gens vont comprendre.
Et ça, c'est intéressant. On en parlait juste avant, tout à l'heure, sur la pub, parce que Wiko, c'est une marque qui s'est construite sans trop de pub et qui n'est pas forcément très connue. Et justement, on discutait de la brand equity des marques. Il y a beaucoup de marques, enfin, les marques historiques se sont construites sur de la pub. La brand equity, elle s'est construite comme ça. Et aujourd'hui, tu as Scott Galloway, donc le fondateur de L2, qui dit la marque que les clients vont préférer, c'est la marque que Google ou que Amazon leur dit qu'ils doivent préférer parce qu'il y a des reviews, parce qu'aujourd'hui le web, ça permet de trouver des marques hyper verticales, donc vraiment sur des niches. Et en fait, les gens aujourd'hui, c'est ça qu'ils cherchent. C'est-à-dire, c'est bien sûr qu'il y a les marques génériques qui vous rassurent, toutes les marques de Procter ou Unilever ou quoi. Ça, j'imagine que ça rassure, même si le rachat de Whole Foods, ça va faire bouger un petit peu les lignes, j'imagine. Mais enfin bref, c'est une autre discussion. tu as quand même ce phénomène assez renversant qui est qu'en fait, les gens, aujourd'hui, ils vont dans la longue traîne des marques. Ils vont chercher précisément le produit dont ils ont besoin. Donc, c'est-à-dire le téléphone, pas cher, simple, juste rien, je prends le téléphone, que je vais utiliser dans ma voiture. Éventuellement, que je vais utiliser dans ma voiture qui est une Renault Laguna, je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, c'est possible. C'est pas, y a des grandes marques et puis il y a toute la longue traîne qui représente une énorme partie de business. C'est comme ça qu'Amazon s'est construite sur les bouquins, d'ailleurs.
Moi, je ne parle plus de marketing, je parle de magnéting. C'est-à-dire que alors, c'est très proche, évidemment, c'est très lié au mobile. Hein, mais les marques aujourd'hui, c'est aux marques d'être fidèles aux clients. C'est pas, ouais. Le consommateur, il est naturellement infidèle. On le voit bien, on le voit dans son acte de consommation, mais on voit dans sociologiquement parlant aujourd'hui. Donc nous, ce qu'on fait chez Wiko, c'est qu'on essaye de créer des conditions pour que les gens ont envie d'acheter des Wiko, non pas parce qu'ils ont vu une belle pub, même si on y travaille et que c'est un travail de longue haleine, mais parce qu'ils ont en effet un produit qui correspond à leurs usages et à leurs attentes. Et ça, c'est en effet l'ADN Wiko. Ça marche pas pour toutes les marques. Il y a encore des marques aujourd'hui qui continuent à avoir des stratégies où je mets des grosses campagnes médias et ça génère des ventes. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que chez nous, dans le monde du mobile, qui est un monde assez âpre et difficile et complexe, si vous n'avez pas des avis positifs sur vos produits, si vous n'avez pas des réseaux de distribution qui vous accompagnent pour en effet développer non pas des verticales où on fait que de la communication, mais des vraies raisons d'acheter le produit, si vous n'avez pas un site e-commerce qui permet en effet d'interagir avec ceux qui ont envie de vendre en direct, d'acheter en direct avec la marque, si vous n'avez pas à l'intérieur du mobile des avantages uniques et spécifiques, c'est compliqué d'exister, ça c'est sûr et certain. En tout cas, dans notre monde à nous du mobile. Donc, c'est enfoncer une porte ouverte que de dire aujourd'hui que Wiko, qui est une entreprise qui a uniquement 6 ans d'existence, versus aujourd'hui des acteurs qui sont entre guillemets ses concurrents, qui sont quand même historiques, des Samsung, des Apple. Sony, des Apple, voilà. Nous, en effet, on a cette bizarrerie d'avoir plus d'un million de visiteurs uniques aujourd'hui sur nos sites, alors que. On a fait très peu d'achats médias et très peu d'achats web. Et tout ça, c'est lié à quoi ? C'est parce que les gens nous cherchent et les gens nous trouvent.
Et d'ailleurs, c'est Georges-Édouard Diaz, donc l'ancien CDO du groupe L'Oréal, que je vais recevoir bientôt, qui a sorti un bouquin la semaine dernière, qui s'appelle « Manifeste pour l'hospitalité des marques », et qui explique justement qu'en particulier chez L'Oréal, on lui a toujours appris que le client c'était la cible. D'ailleurs, on parle souvent de c'est quoi ma cible ? Quand on fait un brief à une agence, c'est quoi la cible, etc. Et il me dit, mais en fait, aujourd'hui... Aujourd'hui, ce sont les marques les cibles. C'est pas le consommateur qui est une cible. En fait, il faut se comporter comme une proie. Et l'idée, c'est pour une marque, c'est de se faire attraper, en fait. Et pour se faire attraper, il faut avoir de l'hospitalité. Il faut répondre de manière ce que tu expliquais très bien, de manière verticale à un besoin, pour que les gens vous trouvent et que les avis soient positifs, évidemment, etc. C'est hyper intéressant ce renversement. Alors bien sûr, le VRM, ce qu'on appelle le VRM, le Vendor Relationship Management, qui est un vieux concept, qui a décollé plus ou moins hein, ce concept-là. C'est exactement ça, mais je trouve qu'effectivement ça prend énormément d'ampleur aujourd'hui de dire ben c'est pas juste une question de service client, c'est une question de développer des produits qui correspondent vraiment à des usages hyper spécifiques. Il y a une verticalisation incroyable, on l'a vu dans la beauté, enfin moi je connais bien le monde de la beauté, donc on l'a vu dans le monde de la beauté, mais on le voit un peu partout aujourd'hui. Les gens ils veulent plus le sac hyper connu, ils veulent le sac qui me correspond à moi, et c'est pas qu'une question de personnalisation avec mon nom dessus, c'est une question de ça correspond précisément à mon besoin, en fait.
Ouais, nous, toute la verticale et toute la stratégie aujourd'hui digitale de Wiko, qui est en train de se mettre un petit peu en mouvement depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est une verticale dont l'objectif au final est de non pas de dire je suis la marque préférée du client, mais que c'est une verticale qui impose que le client se dise je suis le client préféré de Wiko. Ouais. Donc ça répond un peu à ce que tu dis. Et pour pouvoir faire ça, il faut être capable de reconnaître ce client, évidemment. Et ça, souvent, on parle de big data, mais nous, on est dans ne serait-ce que l'intégration aujourd'hui d'un client dans notre écosystème. Moi, je vois beaucoup d'entreprises qui disent « Oh, on est déjà dans le big data ». Moi, la réalité de ce que je vois au quotidien, puisqu'on est dans VLAN, elle n'est pas tout à fait si évidente que ça. La deuxième chose, c'est « Je suis capable d'interagir et de parler avec ce client ». Donc, on a repensé notre service client. On a mis en place, évidemment, des stratégies de réseaux sociaux un peu impactantes où on peut... On essaye de plus laisser une trace. Quand un client est mécontent de son Wiko, ben on lui parle, on lui répond, on essaye de trouver des solutions de manière systémique. Mm-hmm. Et trois, d'anticiper les besoins. Alors ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, parce que naturellement, en fait, quand on interroge un client, il n'a pas de besoin fondamental. C'est surtout dans le mobile, il veut juste que son téléphone marche, qu'il y ait une bonne batterie, que ça capte. Sauf que comme en même temps, il y a un opérateur, et puis il y a son usage à lui, il y a la manière dont il traite son téléphone, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si on est capable, en effet, de... un, reconnaître le client, parler avec lui, anticiper ses besoins, à ce moment-là, on peut en effet être la proie, devenir une proie, comme tu le dis. Et c'est notre objectif chez Wiko, c'est une remise en question tous les jours parce que c'est pas évident.
Mais c'est un changement culturel hyper fort, en fait, c'est ça qui est intéressant.
C'est culturel parce que tout le monde pense que c'est assez amusant. Moi, j'ai travaillé la chance d'être travaillé dans l'industrie, chez Seb, dans le tourisme, chez Pierre et Vacances Center Park. Et on pense que le client, c'est juste normal de le considérer et de le mettre au centre des organisations. Et en fait, c'est pas vrai. Enfin, ça devrait l'être, mais c'est pas le cas.
C'est loin d'être vrai.
Exactement.
Dernier sujet que je voulais aborder avec toi, je pense qu'on pourrait parler longtemps du centrage client des marques qui le sont en général pas. Enfin, en fait, les gens sont généralement centrés sur leur carrière, mais bref, ça aussi c'est un autre débat.
Sur leur contrôle de gestion, peut-être.
Et aussi sur leurs actionnaires et sur leur contrôle de gestion. Enfin, bref, en tout cas, clairement pas sur les clients. Dernière question qui me semble intéressante, c'était le rôle du CDO. C'est une discussion qui est, c'est intéressant parce que je trouve que à chaque boîte finalement il y a un CDO différent dans le sens rôle différent. Souvent on a tendance à penser que les directeurs digitaux sont des métiers qui sont passagers, c'est-à-dire qui sont là pour accélérer le digital. Toi, ce que tu m'expliquais, c'est qu'il y avait plusieurs rôles potentiels pour un directeur digital.
Je pense que quand on rentre dans une organisation avec un titre qui est CDO, souvent c'est pour remplir des cases ou pour répondre à des interrogations ou pour traiter des sujets de manière directe ou transversale, et on ne peut pas appeler le CDO directement par une dénomination parce que ça peut poser des problèmes dans les organisations politiques, etc. Néanmoins, ce que je pense, c'est qu'il y aura trois l'évolution du CDO de demain. C'est souvent, je prends beaucoup d'un imaginaire animal, parce que dans les entreprises, finalement, on fonctionne beaucoup comme des animaux. mais je pense que le CDO de demain, c'est un CDO qui d'abord assume son impact dans l'organisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de CDO qui existent, qui sont là, ils n'assument pas forcément leur impact, ils ne sont pas forcément dans cette logique, on ne leur a pas demandé d'avoir de l'impact, on leur a demandé d'exister, de montrer qu'il y avait plein de choses. Donc ça, c'est la première, c'est la base. Et ensuite, pour moi, il y en aura trois. Soit c'est le CEO qui deviendra CDO. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, un grand patron que je ne citerai pas parce que ton audience est très B2B et c'est très haut de gamme, mais il m'a dit oh là là, viens, je cherche mon CDO. Je lui ai dit tu vas économiser beaucoup d'argent, deviens le CDO de ta boîte, ça sera plus simple et puis tu vas gagner de l'argent surtout. Donc il m'a dit ah bon, quand est-ce qu'on déjeune ensemble? Bon, et ça c'était la première, plus la blague. Mais sinon, il y aura deux types de CDO pour moi. Il y a soit celui qui est DRH, qui en effet va mettre en place des campagnes d'accompagnement, de formation, de stimulation, avec un vrai process à l'intérieur des organisations, parce que la réalité aujourd'hui des PME et des grosses boîtes, c'est qu'elles ne veulent pas se transformer. Les gens, ils n'ont pas envie de changer, ils sont très bien comme ça, la boîte marche bien ou marche moyennement bien, ou même quand elle marche mal et on vient leur expliquer « Ah, il faut changer, mais de quel droit? Pourquoi ?» Non. Donc soit ça sera un DRH qui fera la mission de l'impossible,
le changement culturel,
l'ADN, le job impossible sur le papier, mais bon, ça arrive. Ou alors le CDO qui est plus dans ce que j'appelle le commercial 3.0, c'est-à-dire un CDO qui vient véritablement chercher de l'impact dans l'organisation en générant de la valeur. Moi, je suis plutôt dans cette logique, je vends des téléphones, je l'assume. D'ailleurs, souvent ça fait rire les gens quand on me dit mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, je dis je vends des portables, je vends des mobiles, et du coup c'est plus simple pour comprendre. Et surtout, ça, ce qui est incroyable, c'est que ça génère en effet de l'impact. C'est-à-dire que d'un coup, on se dit « Ah oui, ok, il est là pour vendre des produits, il est là pour accompagner le business. » Et ça, c'est génial.
Ça peut être ça, et ça peut être aussi une transformation. Enfin, il y a plusieurs rôles aussi que tu peux imaginer. Ça peut être une transformation du business, c'est-à-dire, tu vois, ce qui se passe chez Accor, donc la transformation du business pur, c'est-à-dire, en fait, le business, en fait, on se rend compte qu'on pourrait faire d'autres choses. Voilà. Il y a aussi, bon, maintenant, on utilise CDO pour Chief Data Officer, c'est le même acronyme, mais c'est deux. Et ça peut être aussi une évolution du CDO, qui est autour de la data et de la gouvernance des data. Et...
Je n'ai jamais dit que j'avais raison sur tout.
J'envisage juste d'autres pistes. Génial. Ce podcast, il s'appelle Vlan, donc. Et de manière récurrente, je demande à mes invités à quoi ou à qui ils voudraient mettre un volant aujourd'hui, donc, claquer la porte, pas forcément de manière nominative évidemment, mais ça peut être ce que tu veux.
Non, moi je voudrais pas claquer la porte, mais comme on est le lendemain des élections législatives et que on a quand même.
Attention, je sais pas quand je vais diffuser.
Ouais, ben alors c'était le lendemain, voilà, et que on a un nouveau président avec une nouvelle majorité élue. On le souhaite en tout cas. Il faut qu'il réussisse parce que en effet, il incarne, je pense. Qu'on soit dans ses opinions, ses idées ou pas, en tout cas il incarne un véritable changement d'air pour la France, et c'est ça qui est important. Et surtout il va, j'espère en tout cas, aider les jeunes entrepreneurs, les start-up. Il y avait Vivatech la semaine dernière, c'était passionnant, et ce qui est passionnant de voir à la fois en effet la vivacité des PME et en même temps l'obligation finalement de tous ces grands groupes de devoir les accompagner. Et moi quand je dis Vlan, allez, on ferme les portes, on essaye d'aider ces entrepreneurs qui tous les jours sont la vivacité de la France, où on sait les jeunes qui ont des nouvelles idées, des nouveaux projets. Vlan, on y va et on avance. Et on marche
dans le sens positif.
Exactement.
Cool, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.